Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 8, les versets 1 à 22. Genèse chapitre 8, versets 1 à 22. Donc, tout le chapitre. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur toute la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors, on va... J'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, « Le Seigneur est au contrôle. » Alors, il est au contrôle de trois choses qu'on va regarder dans les Écritures. Au contrôle dans sa création, c'est dans les versets 1 à 5, on va voir que c'est surtout cet aspect-là que les Écritures nous décrivent. Au contrôle de ses voies, dans les versets 7 à 14, et au contrôle dans ses miséricordes, les versets 15 à 22. On entend souvent l'expression « Dieu est au contrôle ». Quand on dit « Dieu est au contrôle », qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Qu'est-ce qui contrôle? Comment le contrôle-t-il? Et pourquoi le contrôle-t-il? Alors, vous savez que notre assemblée, comme assemblée, a adopté la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Il y a des bijoux là-dedans. Quand vous lisez ça, puis que vous lisez attentivement et que vous allez voir les versets qui sont à l'intérieur de ça, vous avez plein de leçons que vous allez apprendre sur plein de sujets. Il y en a un qui est le paragraphe 1 du chapitre 5 qui s'appelle « La providence de Dieu ». On va le lire ensemble, juste, il est court, mais il dit tellement de choses dans un petit paragraphe. Alors, ça dit, et il y en a 7 paragraphes là, pour la providence de Dieu, mais on va lire juste le paragraphe 1 du chapitre 5, qui s'appelle « La providence de Dieu ». Alors, ça dit, dans ce paragraphe-là, « Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sa très sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa prescience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. » Alors, quand vous allez dans la confession de foi, vous allez voir que dans tout ce petit paragraphe-là, ils mettent tous des petits numéros. Là. Les petits numéros représentent des références aux Saintes Écritures. C'est très, très instructif quand on fait ça. Quand on lit le passage, bien sûr, il nous dit des choses, mais parfois, aller lire sur quel verset il se base pour développer une telle idée, c'est très intéressant aussi. Alors, on n'ira pas les lire tous, mais dans le fond, c'est juste pour vous montrer que, dans le fond, la doctrine de la Providence, elle est très bien définie et décrite dans notre confession de foi. On a intérêt à bien la connaître, parce que c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans ce paragraphe-là? Au moins trois choses. La première, c'est que Dieu exerce son contrôle absolu sur toutes les créatures et sur toutes choses. Donc, il n'y a pas juste les créatures, les êtres humains, il y a les animaux, il y a les choses. Il exerce son contrôle absolu. C'est énorme, ça, là. Deuxième chose qu'il est en train de dire, c'est qu'il le fait par sa très sage et sa très sainte providence. Le mot « providence », il y a un mot, le mot « pro », qui veut dire « devant », et le mot « vidéo », qui veut dire « voir ». Providence, ça veut dire voir devant. Dieu voit devant pour la simple bonne raison, c'est tout lui qui a décrété toute chose qui devait arriver sur la terre. La providence, nos circonstances de vie quotidienne font partie de la providence de Dieu et Dieu nous dit que tout ce qui permet qu'il arrive dans nos vies, c'est sage et c'est saint. Et ça a un but. On a donc tendance à oublier ça avec une rapidité déconcertante. Dès qu'il nous arrive quelque chose, si Dieu nous bénit, puis nous donne de l'argent, puis nous donne des affaires agréables, « Oh là, Seigneur, t'es bon, t'es bon! » Puis là, on remercie. Le Seigneur nous a envoyé une petite épreuve. « Oh, Seigneur, m'as-tu oublié, là? » Non, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, au contraire. Il se sert des circonstances de ta vie. Et c'est toujours sage et c'est toujours pour un but très élevé de sanctification et de t'amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, si on comprendrait vraiment ce que ça veut dire la providence de Dieu dans nos vies, contrôle de nos circonstances, on chiolerait jamais. Pour la simple et bonne raison, que tout ce qui permet qu'il arrive dans nos vies, ça a un but, et c'est sage, et c'est saint, et pour un chrétien, c'est toujours pour t'amener à la ressemblance de Christ. S'il n'y avait pas d'épreuve, il ne pourrait pas t'amener à la ressemblance de Christ, parce que tu as trop de choses à apprendre. Et il se sert des circonstances de ta providence pour t'apprendre ces choses-là. Et la troisième leçon qu'il nous apprend dans ce petit paragraphe-là, il est court, hein, il nous apprend beaucoup de choses. On pourrait passer... Je suis sûr qu'on pourrait passer 2-3 semaines juste sur ce paragraphe-là. Et la troisième chose qu'il nous apprend, c'est que tout arrive pour sa gloire. Même nos circonstances, même nos épreuves, servent à nous rapprocher de lui, à nous rendre semblables à Jésus-Christ de plus en plus. Et il se sert d'un drôle de... Parce que le Seigneur, il tricote avec des choses que nous, on considère bonnes, et avec des épreuves que nous, des fois, on ne considère pas bonnes, mais les deux sont bons, parce que Romains 8, 28 dit « Toutes choses contribuent, travaillent ensemble », dans le grec, c'est « travaillent ensemble » dans le but de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Toutes choses. Il n'y a pas une chose que vous pouvez penser qui vous arrive au cours d'une journée qui n'a pas pour but de vous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. On ne devrait jamais chialer. Comment ça se fait qu'on chiale tout le temps? Parce qu'on l'oublie. Alors, des fois, on a besoin de se faire rappeler à la mémoire toutes ces choses-là. Alors, le chapitre 8 de la Genèse illustre vraiment les vérités dont on vient de parler. Premièrement, dans les versets 1 à 5, on apprend que le Seigneur est au contrôle dans sa création. Parce que ça dit dans le verset 1, « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était dans l'arche. » Selon vous, c'est-tu parce que Dieu avait oublié que Noé était là avec tous ces animaux et tout ce monde-là? C'est une expression, on appelle ça un anthropomorphisme. Anthropo, ça veut dire homme. Morphisme, ça veut dire forme. Dieu se sert de forme de langage pour nous faire comprendre quelque chose qui est... autrement dit, Dieu, dans sa condescendance, se baisse à notre niveau pour nous faire comprendre des vérités. Un anthropomorphisme, c'est ça. Dieu, c'est pas parce qu'il avait oublié, là. Il se sert d'un mot que nous, on dit, oublié. Il dit « se souvint ». Alors, bien sûr, on parle de notre anthropomorphisme. Ésaïe 49, c'est un beau verset pour nous rappeler que Dieu ne nous oublie jamais. Ésaïe 49, versets 15 et 16, il dit, le Seigneur, il dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Il parle à des enfants, il parle à des chrétiens. Le Seigneur est en train de dire que nous, des fois, quand il nous arrive des malheurs ou des choses qu'on considère comme des malheurs, combien de fois on est porté à dire « Ben, coudon, Dieu, que si je t'ai fait? M'as-tu oublié? On dirait que tu m'as oublié. » Il ne t'a pas oublié. Dieu dit qu'il ne t'oubliera jamais. Il ne t'a jamais oublié puis il ne t'oubliera jamais non plus. Parce que voici, dans le verset 16 de 49, Isaïe 49 dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Tes murs sont toujours devant mes yeux. Autrement dit, rien n'échappe au Seigneur. Même dans les circonstances qui peuvent paraître pénibles, vraiment pénibles, le Seigneur ne t'oublie pas. Puis il y a une raison particulière pourquoi il te fait passer par là. Ça, c'est facile à dire dans nos esprits, mais c'est plus difficile à vivre dans la vie de tous les jours. Mais si on le rentre bien d'aplomb dans nos vies, des fois, il peut nous arriver des choses qu'on trouve difficiles à vivre, mais on peut se rappeler le verset « Toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ça a pour effet de calmer nos cœurs. On sait que ça fait mal, ça n'enlève pas de mal, mais ça donne un sens à ce qu'on vit. Alors ici, Dieu nous montre que sa miséricorde s'étend sur vraiment toute sa création. Noé, sa femme, ses trois fils, ses trois femmes, leurs trois femmes, et tout le bétail qu'il y avait là-dedans. Dieu pense même aux animaux, un oiseau, une grenouille. Tout Dieu pense à tous les animaux de la terre sans exception. Et ici, on voit sa puissance. Quand on dit que le Seigneur est au contrôle dans sa création, quand il dit dans le verset « Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'arrêtèrent. » Et là, on va voir la puissance du Seigneur. Parce qu'il dit « Et les sources de l'abîme. » Autrement dit, les sources de l'abîme, c'est l'eau qui avait sorti, parce que la croûte terrestre, il y a de l'eau souterrain, et ça avait brisé, et ça avait contribué à ce que le déluge soit universel. Mais ça venait d'en haut, et ça venait d'en bas. Et ça dit, et les sources de l'abîme. Donc, ce qui venait par en bas, le Seigneur, imaginez-vous, qu'est-ce que ça prend comme force pour fermer la croûte souterraine qui est en dessous des mers. C'est énorme, c'est incroyable ce que ça peut prendre comme force. La même chose par en haut, il y avait eu beaucoup de pluie, il dit « les bondes des cieux se fermèrent ». Alors la puissance de Dieu se manifeste dans ces gestes-là de fermer les sources de ce qui avait amené ce grand déluge et ce qu'il y a en haut, le haut et le bas, juste par un vent. Imaginez-vous la puissance du Seigneur. « Et la pluie fut retenue des cieux ». Et dans le verset 3, « Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, elles allèrent se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. » Une chose que je veux vous dire ici, c'est parce que je vous ai donné des liens au début, quand on parlait du déluge, des liens sur des sites créationnistes, parce qu'il y a des inconvertis qui se disent, « Si c'est vrai qu'il y avait tant d'eau que ça, Où qu'elle est repartie, cette eau-là? Si c'est des questions qui vous intéressent, allez sur ces sites-là et ils vont vous donner les réponses. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais que le Seigneur est assez... S'il est assez puissant pour ouvrir la croûte terrestre pour faire sortir l'eau, il est assez puissant pour faire tomber de l'eau d'en haut, il est assez puissant pour la ramener où ce qu'elle était avant. Mais s'il y en a qui ont besoin d'avoir des preuves dans le domaine de la physique ou de l'hydrologie, ben allez sur ces sites-là, ils vont tous vous donner vos réponses. Alors, je vous le dis, là, parce que... Alors, on voit vraiment l'omnipotence divine qui se déploie ici, vraiment, devant nous. Alors, ça prenait une force herculéenne, c'est même pas un bon mot, pour faire reculer cette masse gigantesque d'eau. Imaginez la Terre remplie d'eau, puis ouvrir la croûte terrestre, la faire rentrer lui faire reprendre son trou, comme on dit, la puissance que ça pouvait demander. Et la capacité de fermer aussi, arrêter complètement les puits torrentiels, juste par un commandement. Le Seigneur parle et les choses s'exécutent. Ici, on a une chose intéressante qui nous est mentionnée dans le verset 4. Les eaux ont diminué. Et c'est rare qu'une personne, par elle-même, en lisant les Écritures, va être capable d'aller lire ce qui est marqué, puis de faire des déductions. Pourtant, on est capable de les faire, parce qu'ils nous donnent des informations. Ils nous disent que, depuis que le déluge a commencé, quand l'arche est atterrie, on pourrait dire, sur le mont Ararat, on a dit qu'il s'était passé 150 jours. Mais on a vu aussi par le reste des versets que Dieu n'a pas permis que Noé sorte tout de suite au bout de 150 jours. On sait par le calcul qu'on peut faire avec tous les versets qu'il a resté 371 jours au total dans l'arche avant que Dieu... Vous remarquerez que dans un verset, Dieu avait dit « entre dans l'arche » et Noé a attendu que Dieu lui dise « sors de l'arche ». Donc, c'est le commandement de Dieu qui l'a fait rentrer, puis c'est le commandement de Dieu qui l'a fait sortir. Mais c'est vrai qu'on ne les voit pas nécessairement, ces affaires-là. Je vous avais dit la semaine dernière que je voulais que tout le monde vienne. J'ai pris un exemple un peu publicitaire. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant concernant les dates. Et en relisant le texte ce matin, je me suis rendu compte qu'il y en a encore plus que j'ai découvert. J'ai découvert des choses, mais je suis convaincu que quelqu'un qui prend le chapitre 8 et qui regarde toutes les références qui ont rapport avec les dates et le symbolisme de tout ça spirituel, c'est extraordinaire. Je vais vous en donner rien qu'une, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dans le chapitre. Je vais vous donner celle que j'ai découvert en lisant un commentaire, parce que ces commentaires-là, ça prend des personnes qui sont vraiment... qui attendent, qui lisent, mais ils font attention à ce qu'ils lisent, puis bon. Alors, ça dit, dans les versets 4 et 5 du chapitre 8, qui s'arrête à penser à ça quand on lit? Le septième mois, le 17e jour du mois. C'est-tu précis ou c'est pas précis, ça? Pourquoi Dieu fait ça? Parce que des fois, on lit ça, on glisse là-dessus, même si on ferait du surf. Il y a une raison pour laquelle il a dit cette date-là. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, on sait que c'est le septième mois, le 17e jour du mois. Maintenant, qui se donne la peine d'aller voir, selon le calendrier juif, le 17e jour du cinquième mois, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ça? Alors, et là, ça dit dans le verset 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Alors, on a une autre référence, on a dit 150 jours, puis on a dit que du 7e au 10e mois, il est resté encore dans l'arche. Alors ici, c'est toutes des affaires qu'on peut prendre les chiffres, on peut les additionner. Alors, le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Moi, ce que j'ai appris en préparant cette leçon-là, c'est que les Écritures sont remplies de choses qu'on passe dessus. Très, 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 très souvent. On manque des bénédictions qui sont d'une richesse. Quand on les découvre, là, moi, je vous le dis, là, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh! J'ai fait un grand waouh avec un gros W majuscule. Parce que je vais vous dire vous partager mon affaire. Alors, on sait, par le verset 11 du chapitre 7, que le déluge débuta le 17 du mois, Marchesvan, selon le calendrier civil juif. Et ça correspondait au 17 novembre 1656, si on suit Alors, maintenant, on apprend au chapitre 4, au verset 4 du chapitre 8, que c'est le 17e jour du 7e mois que l'arche a atterri sur le mont Ararat. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes des Écritures qui sont arrivées à cette date-là? Et c'est là que je vous dis que quand je l'ai découvert, j'ai dit « Wow, fly! » Et là, je vais vous la partager. Comment ne pas s'émerveiller devant ce fait hautement significatif? Le 17 d'Abib. Le mois d'Abib, c'est le septième mois selon le calendrier juif. Ou de Nissan. Ça vous dit-tu quelque chose, le 17 de Nissan? Hein, ça vous dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le 17 de Nissan? La résurrection de Jésus-Christ. C'est-tu? Wow! Puis d'autres choses qui s'est passé cette date-là aussi. C'est la sortie, la traversée de la mer Rouge des Juifs. Les Juifs ont traversé la mer Rouge. Autrement dit, voyez-vous le symbolisme entre les deux? L'arche qui contenait les survivants atterrit sur le mont Ararat. Et ça correspond à la date que les Juifs ont sorti d'Égypte par la mer Rouge qui s'est ouverte et ont traversé. Les deux dates correspondent. Ouh, c'est fort. Après ça, le 17 de Nissan, la résurrection de Jésus-Christ et l'arche atterrit sur les montagnes. Moi, je trouve que le symbolisme est hallucinant. Hallucinant. Puis la raison pour laquelle le Seigneur met ça, c'est que souvent, on lit tellement superficiellement. Moi, ça m'apprend, c'est humiliant, ça, d'apprendre que ça fait des années que tu lis l'Écriture, puis tu as passé à travers au-dessus de trésors qui sont là, mais c'est parce que tu es trop paresseux pour aller voir c'est quoi ce 17e jour du 5e mois. C'est quoi le 5e mois? Tu sais, on se pose pas de questions, et à quelque part, on n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas posé de questions. Les Écritures sont faites pour être questionnées. Si on les questionne, on découvre des choses extraordinaires. Maintenant, l'endroit qui a été choisi pour que le Seigneur fasse atterrir l'arche sur le mont Ararat, ça, c'est assez extraordinaire aussi, parce que moi, je me sers d'un outil qui s'appelle « The Pulpit Commentary ». C'est sûr que parce que moi, je lis en anglais, je ne vous le donnerai pas en anglais, parce que de toute façon, ça ne donnera pas grand-chose, mais je vais vous le lire. Je l'ai traduit personnellement. Je pense que j'ai fait une bonne job. L'auteur, il dit qu'il a déjà vu cet endroit-là. La personne qui écrit ça, il dit qu'il a déjà vu l'endroit où l'arche est atterrie, les montagnes. Alors, il dit, rien ne peut être plus magnifique que sa forme. Il parle de la montagne. Le Seigneur n'a pas permis que ça arrive sur n'importe quelle montagne, n'importe quoi. Rien n'est plus impressionnant que sa forme, plus imposant que sa hauteur. Toutes les montagnes environnantes sombrent dans l'insignifiance si nous les comparons. Elle est parfaite dans toutes ses parties, tout est dans l'harmonie et tout contribue à la rendre un des objets les plus sublimes de la terre. C'est un hasard, ça, que ça arrive là. Puis tout ça, là, c'est imposant. C'est... Voyons donc. Alors ça, s'il y en a qui veulent avoir la source de ça, là, c'est dans le Pulpit Commentary, volume 1, page 125, et c'est un homme qui s'appelle Cares Porter's Travels, apparemment qui aurait voyagé et qui aurait pu voir où ce que c'est cet endroit-là. Alors, le verset 5 nous instruit sur le fait que Noé comprit que le niveau d'eau avait baissé de 15 coudées lorsque l'arche immobilisa. Il fallait que ça allait baisser de 15 coudées. Ça dépassait 15 coudées le plus haut des montagnes. Alors, quelque part, pour qu'ils se rendent compte qu'ils étaient rendus atterris sur un mont, il fallait que l'eau ait déjà commencé à réduire de 15 coudées. Ça se trouve où? Il y a toutes sortes de théories, si vous allez sur YouTube, il y a toutes sortes de théories sur l'endroit. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils l'ont vu, il y a toutes sortes d'histoires, mais ça, il ne faut pas trop prêter foi plus qu'il faut à ça. Alors, un des monts qu'il y a s'élève à 16 254 pieds de hauteur. Il se trouverait dans l'Arménie actuelle, qui est à l'est de la Turquie, au sud de la Russie et au nord de l'Iran. Alors, si vous allez dans ces régions-là, semble-t-il que ce serait à peu près dans ces régions-là que l'arche aurait atterri, sur le mont Ararat. Mais que ce soit le 17 de Nissan, moi je trouve ça extraordinaire que le Seigneur nous donne la date et que tout ce symbolisme-là est là-dedans, là, c'est comme extraordinaire. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est les versets 7 et 14. Le Seigneur est au contrôle dans ses voies, je vous avais dit, des actes de révélation. Donc, il nous montre qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, il lâcha le corbeau qui sortit, portant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et la lâcha de nouveau. Voyez-vous, on lit tous ces chiffres-là. Mais j'aurais demandé à 5000 chrétiens rassemblés qui n'ont pas eu trouvé la réponse dans un commentaire s'ils s'étaient déjà donné la peine de calculer combien de temps ils ont été dans l'arche avant que Noé sorte. Alors, de son entrée à sa sortie, il y a 371 jours, mais les versets nous donnent tous les chiffres qu'on peut additionner nous-mêmes. Alors, c'est vraiment la preuve qu'on lit les Écritures superficiellement. Encore dans le passage Genèse 8, versets 6 à 10, on voit deux choses. L'utilisation de deux chiffres, 40 et 7. 40, on a dit quoi la semaine dernière quand ça symbolisait? Une période d'épreuve qui se termine par la victoire du bien et la ruine du mal. Le 7, il signifie toujours la plénitude et la perfection. Alors, si Noé commence à utilise le cycle de 7 jours, peut-être fait-il référence au sabbat qui est du début de la Genèse. Alors, on apprend aussi que l'épreuve de rester dans un endroit comme ça, même si tu étais protégé par Dieu, ça avait quand même quelque chose de difficile. Alors, le symbolisme des deux oiseaux, si on pourrait rester longtemps là-dessus aussi. Alors, il y en a plusieurs qui pensent que le corbeau, vu que c'est un oiseau de proie impur, qui se nourrit de carcasses, lui, quand il est sorti, il n'est pas revenu. Mais, on sait qu'il est de couleur noire et que son croassement n'est pas le croassement le plus agréable à écouter. Quant à la colombe, on l'utilise encore comme symbole. On voit souvent une colombe avec une branche d'olivier. Ça vient de quoi? Ça vient parler du fait qu'elle symbolise la paix, la douceur et la pureté. Alors, dans les versets 11 et 12, ça dit que la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée dans son bec. Noé connut que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 jours, il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Quand elle ne revenait plus à lui, c'était sûrement un signe qu'elle avait des endroits où se poser. Alors, versets 13 et 14, l'an 601, voyez-vous, on a encore des dates. Je ne l'ai même pas fait, je l'ai découvert, que des fois, dans les dates, on découvre des choses extraordinaires. Et c'est la preuve que les Écritures, c'est un livre d'études. Oui, un livre de lecture, oui, un livre de méditation, mais oui, un livre d'études. Parce que c'est dans l'étude qu'on va trouver des perles comme ça. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Ceux qui ont regardé sur Internet comment c'était gros cette affaire-là. Alors, il a enlevé la couverture de l'arche. Il regardait, voici, la surface de la terre avait séché le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors là, les dates, quelqu'un qui vous donne la peine d'aller vérifier dans le calendrier juif à quoi ça fait référence, ça a sûrement des références au salut. Parce qu'on a vu dans la première qu'il y avait une référence à la sortie d'Égypte, il y avait aussi une référence à la résurrection. Donc, à quelque part, ces dates-là ont des références au salut, à quelque part, dans les Écritures. Je suis sûr que quelqu'un qui se donne la peine de le faire va découvrir d'autres choses qu'on n'a pas vues là, mais que le Seigneur nous donne quand même comme un petit conseil. Fouille plus, mon ami. Tu vas découvrir des choses extraordinaires. Alors, la précision des dates est vraiment extraordinaire pour nous parler du séjour. Maintenant, moi, à un moment donné, ce que j'ai fait, je me suis fait une liste, j'ai marqué un tableau. Et j'ai marqué la durée du séjour dans l'arche de Noé. Et là, j'ai pris les informations qu'on trouve. Au verset 8-4, ça nous dit que c'était passé 150 jours avant que l'arche s'immobilise. Donc, depuis le début d'embarquer dans l'arche, au moment qu'elle a atterri sur la montagne, c'est passé 150 jours. Après ça, ils disent qu'il y a eu une période de, dans Genèse 8-5, une période de 74 jours avant qu'apparue. Après ça, il y a eu une période de 40 jours avant que Noé lâche le corbeau. Puis après ça, il y a eu trois périodes de séjour. Alors, si vous prenez 150, plus 74, plus 40, plus 21, ça donne 285 jours. Si vous prenez 285 jours, puis vous ajoutez le délai de 29 jours entre le moment où Noé a lâché la colombe pour la troisième fois et l'époque où il ôta la couverture, encore une période de 29 jours, et après ça, un autre 56 jours d'attente avant que Noé et sa famille sortent de l'arche. Donc, vous étiez rendu à 285, vous additionnez 29, puis vous additionnez 57, ça fait 371 jours. 371 jours, c'est 12 mois de 30 jours, parce que les Juifs, eux autres, avaient des mois de 30 jours. 12 mois de 30 jours plus 11 jours. Donc, Noé a été dans l'arche, même si au bout de 150 jours, il avait atterri sur le mont Ararat, mais 150, ça prenait encore un autre 150 qui arrive à 300, plus un autre 111. Donc, même après qu'il est arrivé sur le mont, il est resté longtemps avant que Dieu lui dise « Sors ». Pourquoi il a attendu? On voit la sagesse de Noé. Il savait que Dieu lui avait dit le moment d'entrer. Et il n'a pas cherché « Ben là, moi, je suis tanné d'être là-dedans, là, puis on va enlever ça, ce toit-là, puis on va sortir. » Il a attendu que le Seigneur lui dise clairement, verbalement, « Sors ». Alors, dans le verset, la troisième idée qu'on va regarder, c'est que le Seigneur est au contrôle dans ses miséricordes. Voyez-vous, dans le chapitre 8, versets 15 à 17, il a dit « Alors, Dieu parla à Noé ». Intéressant, hein? Parla à Noé. Il n'a pas pris d'initiative de vouloir agir par sa propre initiative. Il a attendu que Dieu lui dise. Dieu parla à Noé en disant, verset 16, « Sors de l'arche ». Il lui avait dit « Entre » et là, il lui dit « Sors ». Parce que Dieu seul savait le moment idéal où l'homme pouvait sortir maintenant que tout serait prêt pour l'accueillir. Et dis-toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rentrent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils multiplient sur la terre. » Alors le Seigneur recommence à s'exprimer verbalement au verset 15 et de façon très claire, dans Genèse 7, 1, il avait dit, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche. » Il lui dit maintenant, Genèse chapitre 8, verset 16, « Sors de l'arche. » Alors, il a attendu patiemment que Dieu lui dise de sortir. Et dans le verset 18 et 19, on apprend aussi quelque chose. Noé sortit avec ses fils et sa femme, les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tant des oiseaux, qui se mettent sur la terre selon leur espèce, sortir de l'arche. Donc, si vous regardez, disons que vous sortez de l'arche, après les 371 jours où tout avait été détruit sur la terre, pensez-vous que vous voyez des scènes de désolation? Absolument. Fort probablement. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur la conscience, sur l'esprit des 8 personnes qui étaient là? Waouh, le Seigneur est sévère. Sûrement. Alors, l'ampleur, mais aussi l'ampleur de la grâce, parce que c'était un peu comme quand tu as eu, disons, tu vois un gros accident, puis toi, tu as passé à un cheveu de l'avoir, l'accident. Puis là, tu vois l'accident, le char est en feu, le monde brûle. Là, tu dis, waouh, j'ai passé proche. Mais un peu la même chose, les autres, ils sortent, puis ils se rendent compte de la grâce que Dieu leur a faite de ne pas avoir permis qu'ils crèvent dans l'affaire. Et on voit dans le verset 20 à 22, on voit la référence future à Jésus-Christ. Parce que des fois, on ne le voit pas immédiatement, mais la référence est là d'une façon indirect, si vous voulez dire, parce que ça dit « Noé bâtit un autel ». Un autel, c'est pour quoi? Pour immoler des animaux, pour rendre grâce au Seigneur. Alors, il dit « Prie de toutes les bêtes pures », il fallait que ça prenait des bêtes pures, de tous les oiseaux, et les offrir en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Pensez-vous que c'est parce que l'Éternel aime l'odeur des oiseaux qui brûlent? Ça me surprendrait. Alors, c'est quelque chose qui fait référence au fait que Noé offre un sacrifice et ce sacrifice-là fait référence au sacrifice de Christ. Alors, pour le Seigneur, recevoir ça en odeur d'agréable, c'est tout simplement voir que Noé savait que ça faisait référence au Christ futur, à venir, parce que lui, à son époque, c'est encore à venir. Il dit, il offrit des holocaustes sur l'autel. Et le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises à sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et là, il donne un signe comme de quoi que ce qu'il est en train de dire, ça va toujours. Et le signe, c'est qu'on le voit encore aujourd'hui. Le jour, la nuit, tant que ça ne cessera pas. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. On sème encore aujourd'hui, on récolte. Ça, c'est comme un cycle. Après ça, le Seigneur il dit, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Tant que ça ne cessera pas, il ne répétera pas que ce qu'il a fait à la destruction de l'homme par le déluge. C'est, autrement dit, c'est le signe. Autrement dit, on le voit, là il fait jour. Puis à soir, il va faire noir. Puis demain, il va faire jour, puis demain, il va faire noir. C'est un cycle. Il dit, tant que ça va continuer, ça veut dire que c'est pas fini encore. Je referai pas ce que j'ai fait avec les hommes pour les détruire par l'eau. Mais d'un autre côté, les Écritures nous disent qu'il va détruire les hommes un autre jour, mais par le feu, un autre moment. Alors, c'est un passage, acte 8, verset 20 à 22, qui est fortement christocentrique. J'aime beaucoup ce terme-là. Christocentrique. Ça veut dire que quand on lit les Écritures, il faut toujours chercher à voir qu'est-ce qui s'applique au Christ dans ce passage-là. Bien, il y a toujours des références au Christ. Parce que le Seigneur lui-même, quand il a expliqué aux disciples d'Emmaüs, il dit, depuis le début, tous les livres, les prophètes, il y aura expliqué qu'est-ce qui concernait là-dedans. Toutes les Écritures dans l'Ancien Testament, tout nous parle de Christ d'une façon plus ou moins rapprochée, plus ou moins évidente, mais tout nous parle de Christ. Alors, c'est important de réaliser ça, parce que quand on lit un passage et qu'on voit que le sacrifice ici que Noé offre, ça avait une référence à la venue future du sacrifice du Christ, on voit les choses de façon différente. Parce qu'on ne voit pas juste, oh, le Seigneur il a fait brûler les oiseaux, puis il a dit, ça sent bon. Odeur agréable, c'est pas ça qu'il veut dire pendant tout. Là. Il faut vraiment tout faire référer à Jésus-Christ. Plusieurs applications, on va y aller vite, j'en ai neuf, mais je vais y aller très rapidement. Les applications, c'est autrement dit, on étudie un texte, on entend des leçons. Il y a des choses que le Seigneur veut nous apprendre, des choses que le Seigneur veut changer dans nos vies. Et on va en nommer neuf. Mais ça veut-tu dire qu'il n'y a rien que neuf dans le texte? Il n'y a plus que neuf. Mais je vais en nommer neuf. La première, malgré les épreuves, Dieu ne nous oublie jamais. En est-ce une bonne, ça? Si on retiendrait celle-là, là, vous auriez déjà... Enfin, on aurait fait un grand pas. Deuxième application, dans nos afflictions, c'est lui, en parlant de Dieu, qui guérit. Comme Noé, notre délivrance est graduelle, directionnelle et observable. Dans nos afflictions, Dieu permet un temps. Et pourquoi il nous en fait sortir à un moment donné? Il y a certaines épreuves qu'on vit, qu'on a donc hâte d'en sortir. Hein? Je ne sais pas si vous savez. Moi, je n'ai déjà eu dans ma vie que j'avais vraiment hâte que j'en sortir. Wow! Mais c'est lui qui détermine le temps. La durée de nos épreuves, les circonstances précises de nos épreuves. Mais nous, on chiale tout le temps. Dieu nous oublie-tu? Il nous a dit dans 41.10, Ésaïe 41.10, tout à l'heure, il ne nous oublie jamais. Et si tu fais traverser ça, c'est parce que dans ta vie,
c'est nécessaire.
Plus simple que ça. Troisième, Dieu a le contrôle absolu sur la nature et les éléments. Bien entendu, sur nos circonstances providentielles également. Qu'est-ce qu'on doit apprendre d'un texte comme celui? Le contentement. Pensez-vous que Noé, quand il est arrivé sur le dessus du mont Ararat, il y avait 150 jours qui étaient passés depuis le début. Puis il a fallu qu'il attende 371 jours avant de sortir. Pensez-vous qu'il n'avait pas hâte de sortir de là? Il devait avoir vraiment hâte. Mais il a attendu. Alors, apprendre le contentement. Moi, j'ai déjà fait une série sur ça. Je trouve ça très intéressant, la doctrine du contentement. On se devrait de l'entendre 10 fois par année, selon moi. Parce que avant de l'apprendre, ça prend du temps. D'apprendre que tout ce qu'on vit a un but. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et il est au contrôle de nos circonstances. Il sait ce qu'on vit, puis c'est lui qui emmène les événements, leur durée, leur nature. Ça, c'est une chose extraordinaire, parce que plus on va comprendre ça, plus on va vivre notre vie chrétienne en étant content. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu? Oui. Toute chose, est-ce qu'il t'arrive un malheur ou il t'arrive quelque chose que tu n'aimes pas, est-ce que ça contribue aussi? Ben oui. Mais pourquoi on chiale à ce moment-là? Quatrième, comme l'arche reposait sur une haute montagne, nous reposons aussi sur une haute montagne, Christ lui-même, le roc. Cinquième, les temps et les endroits pour le repos et la délivrance sont dans la main du Seigneur. Quand il nous arrive des épreuves, on va en sortir quand lui va décider, pas avant, pas après, au moment que lui va décider, qu'est-ce que tu avais à apprendre, tu l'as appris. Après ça, il va passer autre chose. Sixième, les miséricordes recouvrées sont plus appréciées que celles reçues constamment. On prend de la santé. Les miséricordes recouvrées, vous êtes en santé, tombez malade. Un an à l'hôpital, sur le dos. Là, tu recouvres ta santé. Tu vas-tu l'apprécier plus que tu l'avais avant? Avant, tu l'avais la santé, mais tu ne l'appréciais pas. Mais si le Seigneur permet que tu es malade puis t'en sortes, là, tu vas dire, ah, la santé, ça, bien précieux, tu t'en reviendras pas. Et c'est le même sur tout, là. Seigneur, il suffit que tu enlèves quelque chose pour te rendre compte que ce que tu l'avais avant, mais tu ne l'appréciais pas. Septièmement, Dieu considère notre bien avant notre désir. Alors, il était sur le mont Ararat. Il aurait aimé ça sortir. Le désir, c'est, ouais, mais moi, je t'en ai être là-dedans, là. J'ai hâte de sortir. Mais il a attendu. Alors, le Seigneur considère ton bien avant ton désir. Ton désir, c'est d'en sortir, mais le Seigneur lui dit, attends, parce que c'est pas prêt. Je vais te le dire quand ça va être prêt. Puis il te le dit aussi. Ça le dit, il a parlé à Noé. Sors de l'arche. Et la huitième, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Je me souviens, moi, quand je voulais aller étudier l'école biblique, je voulais, mais ça n'a pas de bon sens, mais je voulais. Mais ma femme n'était pas prête. On l'a raconté à plusieurs, c'est pas un secret. Dieu, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça un moment donné, une personne qui était venue étudier avec moi en Ontario, puis il m'avait dit, Marcel, Dieu n'est jamais en retard. Pas de farce, là, je pense que je lui ai sacré une claque. Parce que moi, je voulais y aller. Puis le Seigneur a dit, non, pas tout de suite, t'es pas prêt. Toutes sortes de raisons qu'il ne m'a pas dit. Il n'y a pas d'affaire à me faire des rapports. Mais Dieu n'est jamais en retard. Là, Noé aurait pu dire, bien là, on est sur la montagne, mais là, moi, j'ai hâte de sortir, bien là, le Seigneur a dit non, attends. Et la dernière, c'est que les jugements extérieurs, même sévères, ne changent pas l'homme. On va voir après la suite dans l'histoire, que même après avoir détruit l'humanité complète à cause de sa méchanceté, il devrait avoir retenu des leçons, là, tout ce monde-là. On va voir que ça n'a pas changé grand-chose. L'être humain n'est pécheur et continue à pécher encore la même chose. Alors, même les épreuves sévères ne changent pas l'homme. Alors, on va terminer en disant que le Seigneur nous donne de comprendre et appliquer ces choses dans nos vies pour notre plus grand bien et pour sa plus grande gloire. Amen.